I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Lucas Pouille. Bienvenue dans l'échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, il avait 16 ans et moi 24. C'était dans un petit tournoi à Bourg-en-Bresse, sur mes terres. On s'est recroisés plus tard au fin fond de l'Ouzbékistan. Forcément, on se serre les coudes, ça crée des liens. Et puis il est devenu le champion que l'on croit connaître. Une brute de travail, insensible aussi, qui marche à l'affectif. Un champion avec ses certitudes et ses doutes. Un homme avec ses valeurs. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Salut Capouille.
Salut Antoine.
On se tutoie ou on se voit?
On se tutoie, c'est toujours plus sympa.
Tu m'accueilles à Biarritz, où tu es en train de te reposer, où tu te soignes. T'as mis un terme à ta saison avant Bercy à cause d'une blessure au coude. Déjà, comment tu vas?
Ça va. C'est vrai que ça a été un peu difficile d'arrêter la saison, on va dire, à trois semaines et six semaines, en comptant la Coupe Davis de la fin de la saison. Donc c'est vrai que ça a pris un peu de temps avant de digérer tout ça. J'avais à cœur de bien terminer cette année. C'est toujours un moment spécial de terminer à Paris, au Rolex Paris Masters. Parfois, ça fait partie de la vie d'un sportif. Il faut faire avec. Et donc voilà. Mais maintenant, ça va. Je me prépare déjà pour l'année prochaine.
T'as quoi exactement au coude, si tu peux nous en parler?
Ouais, je peux en parler. J'ai un problème osseux, donc il faut le soigner, il faut solidifier l'os, le cartilage, pour que je ne sois plus embêté avec ça dans le futur. Une carrière, c'est long. J'ai 25 ans. Si on voit la carrière d'un Federer, d'un Nadal, d'un Joe, son gars, on joue jusqu'à 35, 36, 37 ans, donc il me reste 10 ans ou plus à jouer et il faut prendre soin de son corps parce que sans lui, on ne peut pas être performant.
Quand est-ce que tu as commencé à ressentir cette douleur?
J'ai commencé à ressentir la douleur à la fin du tournoi de Metz. Après des douleurs, on en a tout au long de l'année, donc on en a chaque semaine et on ne s'inquiète pas. On s'inquiète pas dès qu'il y a une petite alerte. Et voilà, j'ai décidé de jouer de partir en Asie avec la douleur, de jouer avec. Et c'est vrai que malgré les anti-inflammatoires, malgré les antidouleurs, la douleur n'a cessé d'augmenter. Et quand on est rentré de Shanghai, on a pris la décision d'aller faire des examens parce que c'était un peu plus inquiétant que ce qu'on pensait.
Ouais.
Et les médecins ont été unanimes. Il fallait s'arrêter, se reposer avant que ça se fracture.
Tu penses que tu peux reprendre quand la raquette?
Je pense qu'on va reprendre la raquette fin novembre, si tout va bien. On fait en tout cas tout le nécessaire. En attendant, je peux bosser physiquement.
Chose que tu fais.
Chose que je fais déjà depuis 8 jours. On a pris le parti de pas s'arrêter 3-4 semaines sans rien faire. On bosse physiquement. Je vais pouvoir partir un peu en vacances 8 jours avec Clémence avant de reprendre l'entraînement physique jusqu'à fin novembre, début décembre, où là vraiment je mettrai la priorité sur le tennis.
Tu l'as dit, cette blessure a mis un terme à ta saison. Comment tu la qualifierais, ta saison?
C'est une question qu'on m'a posée pas mal de fois. Et c'est vrai que c'est un peu difficile d'y répondre. C'est pas une saison. Je vais pas dire que c'est une très bonne saison, ni une bonne saison. Parce qu'il y a eu beaucoup de moments où, où ben, j'ai pas réussi à être performant au-delà du niveau de jeu, même sur l'aspect mental, où ouais. ça a pu être compliqué. Elle a très bien commencé. Elle a très bien commencé avec une demi-finale à l'Open d'Australie. Mon meilleur résultat jusqu'à aujourd'hui en Grand Chelem. Ça a été coupé par une grosse maladie où au final...
Ouais, t'as eu une énorme grippe. Hein.
Une énorme grippe où j'ai perdu 5-6 kilos. Déjà que... Voilà, j'avais fait une très bonne prépa où j'avais perdu du poids, où j'étais vraiment affûté en Australie. Et j'étais arrivé où je faisais moins de 80 kilos, je faisais 78 kilos. Mm-hmm. La dernière fois que j'avais fait ce poids-là, j'avais peut-être 14 ans, 15 ans.
Ah ouais.
donc c'est vrai que c'était pas évident parce que ça m'a pris au moins deux mois et demi pour me remettre en forme, je pense que...
Oui, parce que c'est, quelque part, c'était du muscle que tu avais
ouais,
perdu un
petit
peu. Oui,
c'est du muscle parce que je suis resté pendant 10 jours au lit à ne rien faire parce que dès que je faisais le moindre effort, j'avais des poussées de fièvre à plus de 40. Et donc, c'était très compliqué. Et puis après, bah, comme on le connaît, le calendrier du tennis, ouais. tout s'enchaîne. Il y a chaque semaine un tournoi, on a envie de vite revenir. Et puis, il y avait Indian Wells, Miami, ouais. Qui étaient des tournois importants, et j'ai décidé d'aller les jouer. Alors que je pense que j'aurais au final dû...
Avec un peu de recul,
avec du recul, j'aurais dû sauter au moins Indian Wells, mm-hmm. me préparer, me faire au moins 3 semaines où je pouvais bien m'entraîner, me remettre en forme, 3-4 semaines. Et si j'avais été prêt, jouer Miami. Mais voilà, c'est ouais. le problème du joueur de tennis, c'est qu'il y a... et du programme du joueur de tennis, c'est qu'il y a une échéance chaque semaine et que bah, il faut prendre des choix. Et malheureusement, on sait toujours voilà, quel est le meilleur choix à faire quelques mois
ouais,
après.
Ouais, qu'après, effectivement. Commençons par le tout début. Tu es né le 23 février 1994 à Grande-Synthe, dans le Nord. Comment Lucas Pouille est venu au tennis?
Par chance, par pur hasard. Aujourd'hui, j'aurais pu être un joueur de foot.
Ok.
Parce que c'est dans ça que je m'éclatais, que vraiment j'adorais quand j'étais plus jeune. C'est le premier sport que j'ai fait jusqu'à l'âge de mes 11 ans et demi, 12 ans. Mm-hmm. À l'âge de 8 ans, un ami de la famille, Sébastien, nous a demandé si on voulait si je voulais essayer le tennis parce qu'il y a un club qui se construisait à 400 mètres de chez moi
ouais.
et ce jour-là bah moi adorant le sport vraiment mm-hmm. Étant toujours dehors à jouer au foot à faire tout et n'importe quoi j'ai dit oui et c'est vrai que ce jour-là j'ai adoré et je l'ai plus lâché ouais je l'ai plus jamais lâché la raquette et donc sans ça je pense que je n'aurais jamais mis un pied sur un terrain de tennis donc parfois ça se joue à peu de choses.
Ils faisaient quoi tes parents?
Certainement pas du tennis.
Ok.
Alors mon père c'est compliqué. il est inspecteur ITF. Alors c'est pas ITF du tennis.
Ouais.
C'est dans la marine.
Ok.
Donc voilà. Donc et ma mère travaillait pour mon père.
D'accord.
Pour mon père dans un voilà à la maison. Enfin même pas forcément à la maison, mais elle était entre guillemets secrétaire de mon père.
D'accord. C'était qui les idoles de Lucas Pouille quand il était petit?
Alors, il y en a eu plusieurs.
Attends, tu as dit que t'adorais le foot. Il y avait des idoles au foot?
Il y avait des idoles. Il y en a eu beaucoup, mais mon idole, c'était Zinedine
okay.
Zidane, forcément.
D'accord.
Je pense comme énormément de sportifs
ouais.
au-delà du foot. Et c'est vrai que ça a toujours... était lui de par son succès, de par sa classe, de par façon dont il jouait.
Mm-hmm.
C'était ouais, un rêve d'enfant de le rencontrer un jour.
Et puis après au tennis donc.
Après au tennis il y a eu Leighton Hewitt,
ouais.
le premier où vraiment le premier que j'essayais d'imiter.
Ok.
Il y a eu Sébastien Grosjean. C'était mon plus grand poster dans ma chambre.
D'où les casquettes à l'envers.
Ouais, ça c'est aussi les Witt, cheveux, mais
et Witt,
ouais.
Et
Leighton Hewitt, casquette à l'envers, Seb aussi. Voilà, et puis après, il y a eu la période des monstres,
ouais.
qui est arrivée avec Federer et Nadal qui ont pour moi été toujours
une source d'inspiration.
Ouais, une source d'inspiration.
Justement, tu as parlé de... Là, on voit deux générations différentes, même si Federer fait partie de la génération de Hewitt. Quelles sont les différences que tu vois entre cette génération-là et la génération de ta génération? Est-ce qu'il y en a des différences d'ailleurs?
Il y en a, je pense, l'époque.
Ouais.
L'époque dans laquelle on vit. Tout ce qui est... Alors, pour moi, c'est un rapport, mais tout ce qui est lié aux réseaux sociaux,
ouais.
À tout ce qui est à côté du tennis, la médiatisation, tout ça. Je pense que nous, on a grandi avec un portable dans les mains.
Ouais.
Et que eux, je pense, ont pu grandir un peu plus tranquillement.
Mm-hmm.
Donc, ont pu faire les choses différemment aussi. Et je pense que ça, c'est une énorme différence qui, à la fin, je pense, joue quand même énormément.
Ouais.
On est beaucoup plus attaché à est-ce que le regard des autres, l'importance de des followers, l'importance de tout ça, est-ce que ça joue un rôle important dans notre carrière ou pas? Et je pense que ça c'est très dur à gérer, le fait que les gens puissent nous parler facilement, puissent par moments nous insulter, par moments nous contacter comme si on se connaissait, alors que pas du tout. Et ça peut être blessant, et ça peut être parfois difficile à encaisser. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est parfois plus difficile à vivre pour des jeunes aujourd'hui, même si je n'ai pas vécu il y a 20 ans. Mais je pense qu'il n'y avait pas tout ça, donc c'était plus simple.
Tu penses que ça a un impact aujourd'hui sur la façon qu'ont les joueurs de ta génération d'être et même d'agir sur le terrain?
Ouais, je pense aujourd'hui.
Par exemple, parlons de Nick Kyrgios.
Ouais, Nick, pour le coup, en plus, je le connais bien et je l'apprécie énormément.
Ouais.
C'est un mec très sympa, très drôle, qui est en même temps très sensible.
Ok.
Quand on le voit passer plein de moments avec les gamins sur les tournois, faire des
mini
tennis avec eux ou à Washington. C'est la preuve que c'est un mec bien. Après, le tennis, c'est un sport où on est livré à nous-mêmes.
Ouais.
Quand on rate un coup droit et qu'il y a 15 000 personnes ou 10 000 personnes qui font « Oh !» C'est pas forcément évident à gérer. Et de la côté du tennis, quand on perd un match et qu'on s'est un peu mal comporté ou que ça n'allait pas comme on voulait et que derrière, on va sur Twitter parce qu'on est né avec et qu'on se fait insulter, c'est pas forcément évident.
Ouais,
donc,
je peux comprendre.
Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui est dur aujourd'hui. Sans oublier, voilà, le tennis, c'est un sport individuel. On est seul sur le court. On vit avec nos émotions.
Ouais.
On doit les gérer. Y a des moments où ça ne va pas dans la vie hors tennis.
Mm-hmm.
Et pourtant, il faut paraître normal. Il faut sourire. Il faut faire comme si tout va bien et que dès qu'il y a le moindre faux pas. Ben, c'est relayé par les médias, c'est relayé par les gens sur Twitter. Et un joueur comme Nick, qui, malgré ce qu'on peut dire sur lui et ce que les gens en disent, ouais, c'est quelqu'un qui est suivi, qui amène du monde
énormément,
que les gens viennent voir. Et du coup, c'est vrai que le moindre faux pas qu'il fait, ben, c'est relayé et relayé. Et puis du coup, à chaque fois, ça crée des polémiques incroyables.
Ouais, mais c'est une sorte de schizophrénie, puisque les gens en parle, viennent le voir sur le terrain pour ça, et après
le critique.
Exactement.
Et la critique est facile.
Ils adorent ça.
La critique est facile et ils adorent ça. Ils adorent les, on va dire, les gossips.
Ouais.
Toutes ces choses-là, les gens adorent.
On va parler un petit peu de ton coach, d'Amélie Mauresmo, mais avant, tu as travaillé longtemps avec un autre entraîneur qui a été important, je pense, pour toi. Je parle de Manu Planck. Comment tu peux décrire la relation que tu as eue avec lui?
Alors, on se connaissait pas du tout. On s'était aperçu une fois à Melbourne au Grand Hyatt quand on allait j'allais chercher mes affaires ouais. de sponsor avant l'Open d'Australie Junior. Et quelques mois après, finalement, après l'INSEP, la Fédé, voilà, nous a dit à Mathias Bourg et moi-même ouais. qu'on allait travailler avec Manu. Et c'est vrai que je pense que ça a été la personne qui m'a fait réaliser énormément de choses, mm-hmm. Qui m'a amené là où je suis allé jusqu'à la
fin. Vous avez travaillé combien de temps ensemble ?
On a travaillé 6 ans.
Ok.
6 ans, ce qui est long. Ce qui est long et en même temps très court, ouais. parce que le temps passe à une vitesse incroyable. Mais on a créé une relation qui était bien plus qu'entraîneur-entraîné. Et je pense qu'on était voilà, devenu comme un... C'était à mes yeux un peu comme un deuxième père.
Ouais.
Un deuxième père qui, voilà, je savais que je pouvais tout dire, en qui je pouvais avoir confiance, qui serait là pour moi quoi qu'il arrive. Et voilà, donc on a fait un beau chemin. On est parti. J'étais, je sais plus, 500 ou ouais. 700 ITF ou ATP. Et on est monté jusqu'à la 10e place mondiale. On a gagné des titres. On a fait les quarts en Grand Chelem, ouais. demi-finale en Master 1000, gagné la Coupe Davis. Donc pour moi, c'est une très belle histoire.
Tu dis on?
Ouais, parce que pour moi, dans le tennis, c'est un travail d'équipe en même temps. C'est un sport individuel, mais je sais que sans lui, déjà, jamais j'aurais cru possible mm-hmm. y arriver, parce que personne ne me l'avait dit. Et qu'il a été un tournant dans ma carrière.
J'ai eu la chance de témoigner, je peux témoigner de cette relation, puisque je vous ai rencontré, vous, ce duo, quand on était en Ouzbékistan pour jouer des challengers au fin fond de l'Ouzbékistan, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'on pouvait sentir, je m'entraînais beaucoup avec vous deux, et on pouvait sentir cette relation un peu de mentor, et qu'il a un petit peu naturellement, parce que même moi qui étais là tout seul sans entraîneur, très vite il m'a incorporé à votre duo, et d'ailleurs c'était très agréable. Et c'est vrai que j'ai pu sentir cette relation de mentor. Comme s'il était une source d'inspiration.
Ouais, une source d'inspiration, parce que je pense que le fait que ce soit la première personne à m'avoir dit aussi, écoute, tu peux être fort, tu mm-hmm. peux faire de grandes choses dans le tennis, gagner des grands titres et vraiment être parmi les meilleurs du monde. Mais moi, ça m'a fait un choc. Je me souviens très bien le moment où il me l'a dit, c'était en rentrant d'une tournée en Amérique du Sud,
ouais.
la deuxième tournée qu'on ait faite ensemble. On était dans l'avion, il m'a dit « Viens, on va parler un peu ». Et on a fait un débrief de la tournée, et à la fin, il m'a dit « Écoute, je pense vraiment que tu peux être très très fort. Et je vais tout faire et tout donner pour que tu y arrives et pour qu'on y arrive ensemble ». Et c'est vrai qu'il a, il a tenu ses paroles. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est dur de quitter un coach comme ça ?
Je pense que quitter un coach, ça ne doit pas être si difficile que ça. Quitter quelqu'un qu'on aime, c'est dur. Et ça a été une décision qu'au final, on a prise tous les deux.
Mm-hmm.
On en a discuté, et voilà. Mais on reste très proches, on reste toujours en contact. Il sait que si un jour il a besoin de moi, je serai là.
Ouais.
Et surtout, je sais que si un jour j'ai besoin de lui, il sera là. Donc ça, c'est ça qui est important.
Comment on construit, après une relation si forte, une autre relation avec un ou une autre coach, là, en l'occurrence ?
Déjà, je pense qu'il faut être, il faut être, il faut être clair.
Ouais.
Il faut être clair dans sa tête. Parce que si on prend une décision, mais que c'est... qu'on hésite encore un peu, qu'on n'est pas sûr. Dans ce cas-là, je pense que c'est très dur d'avancer.
Ouais.
Une fois que la décision était prise, il faut réfléchir à, voilà, à quelqu'un d'autre, à une personne qui nous correspond, une personne qui va nous faire avancer, une personne qui voit les choses aussi de la même manière que nous. Et Ouais, et qui partagent les mêmes valeurs. Et donc, et donc ça, c'est... Ça court pas les rues non plus. Et voilà. Et donc une fois qu'on a trouvé la personne, il faut que la personne soit intéressée en retour. Et voilà. Donc c'est comme ça que voilà qu'on relance une nouvelle aventure.
Et ça a été le cas d'Amélie Mauresmo. C'est quel genre de coach, Amélie Mauresmo?
Ok. Hein. Je dirais passionnée.
Ouais.
Quand elle se lance dans quelque chose, soit elle le fait à fond, soit elle ne le fait pas. Et une gagnante.
Ouais.
Elle le fait parce qu'aussi, elle a envie de résultats, elle a envie de me faire progresser, elle a envie qu'on aille loin ensemble. Et je pense que c'est ce qui l'a motivée dans mon projet, quand on s'est vu, pour le coup, la première fois qu'on s'est vu, elle a dû me prendre pour un martien parce que c'était une période un peu compliquée où j'avais un peu moins envie de jouer au tennis, où c'était très dur.
D'accord.
Et je lui ai dit, écoute, moi là, je joue parce qu'il y a la Coupe Davis, c'est mon objectif, j'ai envie de la gagner, ouais, etc. Ouais. Et là, je pense qu'elle s'est dit, ah oui, il doit être bien particulier.
D'accord.
Et après, on s'est revu après la finale perdue. À Lille contre les Croates, on s'est vu à Paris à l'hôtel et là je lui ai dit écoute voilà, j'ai envie que ce soit toi parce que tout ce que j'ai entendu sur toi, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir quand tu jouais, ben c'est j'ai l'impression de m'y retrouver, j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à m'amener. Je l'avais côtoyée aussi sur le terrain quand elle était avec Andy Murray.
Ok.
Pendant les entraînements, on avait pu discuter. Et voilà, pour moi, c'était la personne qui pouvait me faire progresser et m'amener encore plus loin et essayer de réaliser mes objectifs.
Tu viens de le montrer avec cette réponse. T'es quelqu'un d'ambitieux et c'est positif. Est-ce que, au cours d'une carrière, les ambitions fluctuent ou est-ce qu'il y en a une qui bouge pas et on fait toujours tout pour l'atteindre?
Alors moi, il y en a une qui bouge pas, c'est gagner en Grand Chelem.
Ok.
C'est mon ambition de toujours. C'était un rêve et c'est devenu un objectif.
C'est joli, ça, déjà.
Il y a une grande nuance entre avoir un rêve et un objectif, parce qu'un rêve, ben, c'est quelque chose pour moi d'intouchable.
Ouais.
Alors qu'un objectif, ben, c'est en travaillant et en mettant tout en œuvre pour y arriver, qu'on y arrivera peut-être. C'est là, il faut vraiment mettre, pour moi, ça entre guillemets, et vraiment en majuscule, en gras, tout ce qu'on veut, c'est peut-être. C'est-à-dire qu'on peut tout faire et on n'est pas sûr d'y arriver. Mais en tout cas...
Mais tout faire est une condition sine qua non.
Ah bah oui. De toute façon, on peut voir l'investissement des tout meilleurs et de chaque joueur qui a gagné en Grand Chelem. Ils ont tout fait pour. Ils ont leur vie à tourner autour du tennis et autour de cet objectif pour y arriver. Et après c'est pas parce qu'il y a des bas qu'il faut baisser la tête, qu'il ne faut plus y croire... Et on passe par des moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, des moments où c'est compliqué dans la vie privée, des moments où c'est compliqué avec des blessures. Et ben, il faut toujours y croire, toujours travailler, toujours essayer de régler le maximum de choses pour être au top, à 100%, le plus longtemps possible, et essayer le jour où la porte s'entoure un peu, de la défoncer.
Il y a une question que j'aime poser à tous mes invités pour réaliser tout ce que tu viens de dire. Il faut une rage. Elle vient d'où, ta rage, toi, qui te donne envie d'être le meilleur, qui te donne envie de gagner un grand chelem? Il faut une petite folie, tu vois?
Il faut de la folie. Il faut de la folie. Je pense qu'aucun champion n'est normal. Je pense avoir beaucoup de folie. Il faut réussir à la canaliser. Mais d'où elle vient? De mes parents, de l'éducation que j'ai pu avoir. Si tu veux quelque chose, tu dois bosser pour l'avoir. Mon père m'a toujours dit, moi j'ai arrêté l'école à 16 ans.
Ouais.
J'ai commencé à travailler à 16 ans. Et par contre, j'ai bossé. Aujourd'hui, j'en suis là. J'ai une famille. J'ai une belle maison. Je peux vous amener en vacances. On est heureux parce qu'on a bossé, ta mère et moi. Et sans ça, tu n'as aucune chance d'y arriver. Et donc, une saison comme il y a un an et demi où c'était un peu compliqué, où justement je me posais des questions, où j'étais dans une phase un peu plus négative.
Ouais.
Ils me l'ont rappelé. N'oublie pas, tu as eu un rêve de gosse qui est devenu un objectif. Tu es parti de la maison à 12 ans. Tu as fait, c'est même pas des sacrifices, mais tu as fait des efforts incroyables pour essayer d'y arriver et pour être là où tu es aujourd'hui. Ne gâche pas tout. Donc pose-toi les bonnes questions. Et une fois que tu as les réponses, repars et travaille comme un dingue. Et je pense que voilà, c'est pas de la rage, mais ça vient de l'éducation de mes parents.
Le grand chelem de ton père, c'était d'avoir une famille, une maison.
Exactement. Et je pense que c'est le grand chelem d'une vie de tout le monde. Au-delà du tennis, ce qui est le plus important, ça reste quand même la famille, les amis. Pour moi, je marche vachement à l'affection et c'est pour ça qu'avec Manu, ça a aussi fonctionné comme ça fonctionne et qu'avec Amélie, on a aussi énormément d'affection. Donc, sans ça, j'arrive pas à fonctionner et pour moi, c'est un moteur.
Tu parlais de ta folie, pourtant sur le terrain, t'as l'air plutôt calme. C'est dur pour toi de garder ou ça boue vraiment à l'intérieur?
C'est extrêmement dur.
Okay.
C'est extrêmement dur. J'ai ce côté un peu froid de l'extérieur qui peut. Et en 2016, on a dit c'est son côté scandinave, etc., qui ressort. En moi, c'est un volcan qui, à chaque fois, est à deux doigts d'exploser. Et le plus important, c'est de le canaliser parce que mes meilleurs résultats sont toujours venus quand il était éteint, on va dire.
Okay.
Quand j'arrivais à le canaliser, à être. Ou en tout cas, être positif même quand ça devenait dur sur le terrain, quand on rate une occasion, deux occasions, trois occasions, etc., et qu'on reste dedans, et les un qui est pour moi, enfin les deux les plus incroyables à ce niveau-là, c'est Federer et Rafa à leur manière, mais ils dégagent toujours une attitude positive et c'est ce qui fait qu'ils perdent très peu dans les matchs où c'est difficile, notamment dans les premiers tours, etc. Et ils arrivent toujours à aller loin parce que ils ont ce voilà. On joue pas notre meilleur niveau, par contre là-haut, on est au taquet et on est toujours positif et c'est de voilà. C'est ce que je vais essayer de mettre en place chaque jour de l'année prochaine parce que c'est ce que j'ai pas réussi à faire jusqu'à présent cette année.
C'est un axe de progression ça pour toi?
C'est au-delà. Ouais, il y a des choses techniques, tactiques, mais je pense que le plus important, c'est cet axe-là.
Ok. Jusqu'à maintenant, pour toi, quelle est ta plus belle victoire?
C'est. Celle contre Rafa.
Voilà, je pensais que c'était la plus évidente.
Celle contre.
Si tu as réfléchi, il doit y en avoir d'autres.
Il y a celle-ci et il y a celle. Pour la Coupe Davis,
pour
soulever le saladier d'argent qui était aussi, qui est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé le tennis aussi. Donc avoir l'occasion de le gagner, c'était voilà, un moment extraordinaire. Mais c'est vrai que contre Rafa, le scénario, le joueur sur le plus grand court du monde, toutes ces choses font que c'est pour moi jusqu'à présent la plus belle victoire.
En 5-7 à la régulière.
À la régulière, 7-6 au cinquième.
En huitième de grand chelem.
Voilà, en menant 6-3 en le tie-break, il revient à 6 partout. On le connaît, normalement ces matchs-là, il ne les perd pas.
C'est vrai.
Et avoir réussi à mettre ce couloir gagnant après 4 heures de jeu, c'était incroyable.
Juste, comment on se sent après?
Lessivé.
Ouais.
Lessivé. Je me vois très bien dans le vestiaire. Alors, les premières secondes, les premières minutes, juste après, c'est juste hallucinant, on n'y croit pas. À ce moment-là, j'avais 22 ans. Je venais de faire mon premier 40 grand chelem à Wimbledon. J'avais pu gagner un match jusqu'à l'US Open. J'avais fait des matchs très compliqués, très accrochés. Et là, on n'y croit pas. Et après, il y a le moment dans le vestiaire où on embrasse toute l'équipe.
Ouais.
Et que là, tout l'influx nerveux, tout... Enfin, on était haut dans les tours pendant 4 heures. Tout ça redescend d'un coup et là, on se sent fatigué. On se sent fatigué et en même temps, ce qui est dur, c'est que le tournoi n'est pas fini.
Bien sûr.
Et voilà, donc, mais c'est vrai que juste après, c'est beaucoup de fatigue et du mal à y croire.
C'est quoi la différence avec le match, par exemple, contre Darcis pour remporter la Coupe Davis en 2017? C'était peut-être déjà moins dur, puisque tu as gagné assez facilement.
J'ai gagné plus facilement. Avec tout le respect que j'ai pour Steve, et qui est un super joueur, qui a fait une belle carrière. Ça reste Rafa. Battre une des légendes de notre sport sur le plus grand cours du monde en grand chelem, c'est quelque chose de, je pense, peu de joueurs l'ont fait. Et donc je pense que c'est la grande différence. Après, la Coupe Davis, ça restera un moment gravé dans ma tête à tout jamais, parce que c'était aussi ce qu'on attendait en France depuis tellement d'années, ce que toute l'équipe cherchait ensemble. C'était pas que ma victoire, c'était pas personnel, c'était une victoire d'équipe. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui a créé aussi cette ferveur et ce sentiment fabuleux quand j'ai gagné la balle de match.
Tu as parlé de l'équipe de France, un peu du tennis français. On entend que la France du tennis va connaître un gouffre générationnel. Déjà, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'on a eu une génération incroyable.
Ouais.
Je pense que pour le coup, à un moment, en avoir 4 dans les 10, au même moment, je crois que c'était ça, je crois qu'ils étaient les 4 dans les 10 ou quasiment. Ouais. C'est juste hallucinant. Je pense qu'il y a eu une période où les joueurs de français étaient plus de 15 dans les 100. Je pense que c'est remarquable. Donc pour moi, toutes les grandes nations ont connu à un moment ou à un autre un trou générationnel.
Ouais, bien sûr.
Je pense que l'Espagne.
Ouais.
Enfin, je vois pas de jeunes qui arrivent ou une dizaine de jeunes qui arrivent et qui assurent une relève comme.
Ouais, c'est vrai.
Pour les Rafa, les Bautista, les Verdasco, les Feliciano Lopez.
Ça a été le cas aussi pour les
Ferrer,
États-Unis.
Les États-Unis, l'Australie.
Ouais.
Je pense que toutes les grandes nations du tennis ont connu ça. Les Suisses ont deux joueurs extraordinaires. Ce sont Federer et Wawrinka. Il n'y a pas de jeunes. Donc, ce n'est pas parce qu'on a connu pendant des années, 10, 15 joueurs dans le sang que ça sera à vie. Voilà. Après, je pense que c'est normal de se poser des questions. C'est normal de se remettre en question, de voir comment on peut faire améliorer les choses, comment on peut... faire comprendre aux jeunes les efforts à faire pour y arriver. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en ayant parlé avec pas mal de jeunes, on ne voit pas les choses de la même manière. En tout cas, je ne les voyais pas de la même manière quand j'avais 12, 13, 14 ans.
D'accord.
Et donc, pour moi, il y a un vrai travail là-dessus, un vrai travail sur l'ambition, sur les efforts. Et ça, c'est très important.
Tu as parlé... d'ambition, tout à l'heure tu parlais de rêves qui deviennent des objectifs. Aujourd'hui, est-ce que tu es en train d'accomplir ce que tu as rêvé plus petit?
Ouais, parce que je fais partie aujourd'hui, là je suis 20e, j'ai été 10e, je fais partie des 20 meilleurs joueurs du monde maintenant, depuis 3 ans.
Ouais.
Donc, j'ai toujours rêvé de faire partie de ces joueurs-là, de jouer sur les plus grands cours, de jouer contre les plus grands, d'être celui qu'on regarde à la télé, d'être celui qu'on peut copier quand on joue dans son club. Ce que j'ai fait étant petit, quand je pouvais copier Joe, Gaël, Richard, Seb, Leighton Hewitt, etc. Donc, après, les objectifs évoluent. Donc, aujourd'hui, je me satisfais pas de ce que j'ai et de ce que je suis devenu. Pour moi, mon objectif de gagner en grand chelem, c'est l'objectif, c'est mon objectif de carrière.
Est-ce que c'est mieux que dans ton rêve, pareil ou moins bien?
C'est moins bien au final. Parce que parce que quand on en rêve, on pense qu'une fois qu'on y est, tous les soucis s'en vont, toutes les peurs sur le terrain s'en vont, toutes ces frayeurs, cette boule au ventre, le moment de sauver la balle de break, le moment de servir pour le match, au final, on les ressent à n'importe quel niveau. Et quand j'en parle parfois avec... J'ai pu en parler avec mes frères, avec des gens qui jouent en club, qui disent « Ah, c'est incroyable, je suis à 5-4 et là, je joue, tout d'un coup, j'ai le bras qui se crispe. » Et ben, tu sais quoi, mec ?
Moi aussi.
Moi aussi. Et tu sais quoi, le pire ? Federer, Nadal, c'est pareil. Et c'est ça qui est incroyable dans ce sport, c'est que à n'importe quel niveau, au final, on ressent ces choses-là. Après, on les gère d'une manière différente. On a plus l'expérience, etc. Ouais. Mais on ressent toutes ces choses et c'est ce qui fait de ce sport, je trouve, un sport incroyable.
Ça s'arrête jamais, quoi.
Non, jamais. Non, on peut dire... Il y en a qui ont 17, 18 ans, qui disent, mais le circuit, voilà, c'est dur, c'est dur, toi, c'est facile, t'es 20e. Non, c'est pareil.
Ouais.
Toi, t'as 18 points à défendre en novembre, et ben moi, je vais en avoir 90 ou je vais en avoir 180. Et au final, voilà, c'est une boucle. À chaque fois, chaque année, on repart à zéro, on a des objectifs et on se pose les mêmes questions.
On en a marre parfois de cette vie-là.
Non, on n'en a pas marre. Y a des moments où on aimerait... Je parle pour moi, j'aimerais profiter de mes potes qui partent en vacances. J'aimerais vivre des moments avec eux. J'aimerais quand ils sont tous au resto, qu'ils partent en vacances, tous ensemble l'été, et que moi, on part faire la tournée aux États-Unis. Ouais, j'aimerais y aller, j'aimerais être avec eux, mais en même temps... Une fois que j'y suis, je me dis quand même on a une vie qui est magnifique et toutes ces choses-là, on aura le temps de les faire une fois que ce sera terminé. Parce que, comme on l'a dit au début, le temps passe vite. On n'a pas le temps, on ne voit pas les années passer. Et que je pense que les jeunes retraités ou les anciens joueurs te diront qu'il faut en profiter au maximum. Parce qu'après, on rentre plus jamais sur un court où il y a 10 000, on rentre plus jamais pour gagner un titre, on rentre plus jamais devant Federer ou Nadal. Et ça, c'est... il faut en profiter.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont souvent encore là, en tant qu'entraîneurs et tout ça, c'est que ça leur manque.
Ouais, c'est une vie... On est piqué.
Ouais.
On est piqué. C'est notre vie. C'est très difficile, je pense, de... Enfin, moi, le tennis, parfois, on peut dire, allez, on a joué 7, 8 semaines de suite, on dit, je suis fatigué, j'en ai marre. Et au final, on se rend compte qu'au bout d'une semaine, si on ne joue pas pendant une semaine, ça nous manque.
Ouais.
Ça nous manque d'aller sur le terrain, ça nous manque de taper la petite balle jaune, ça nous manque ça me manque de me mettre dans le dur à l'entraînement, d'aller à la douche et de se dire, putain, là, t'as bien bossé, quoi. T'as bien bossé, ça va payer, etc. Et donc on est piqué. Depuis le jour où j'ai pris cette première raquette, j'ai ramassé une raquette, je suis piqué.
Tu parlais un petit peu de choses de la vie normale. T'en as fait une cette année. Tu t'es marié. C'est important l'amour pour un joueur de tennis ?
C'est très important. Et elle a été plus qu'importante pour moi depuis l'âge de 16 ans maintenant. C'est vrai que ça fait plus de 9 ans qu'on est ensemble.
Ouais.
Et je pense qu'elle a été aussi un facteur... extrêmement important dans ma progression, dans ma carrière, dans l'équilibre que j'ai pu trouver. Et ce qu'on disait au début, trouver ce qui va pas en dehors, ce qui va parfois pas sur le terrain, c'est trouver ce bon équilibre, cette balance entre les deux, et qui fait que quand on l'a trouvé, c'est là qu'on est au top. Et donc je pense que oui, c'est extrêmement important dans la vie, ou en tout cas moi je le vois comme ça dans ma vie de joueur de tennis, dans ma vie personnelle, c'est extrêmement important.
Tu es heureux dans ta vie d'homme ?
Extrêmement heureux. J'ai une merveilleuse femme que j'aime, j'ai des amis que j'aime plus que tout, j'ai ma famille que j'aime aussi, j'ai pour moi un staff incroyable, donc j'ai tout pour aller le plus loin possible.
Moi ça me paraît bien, pour finir, il me reste plus qu'à te souhaiter de bien te rétablir, de bien te soigner et puis de faire une grande saison 2020. Merci Lucas Pouille.
Merci Antoine Benetton.
Je pensais tomber sur un champion blessé, le moral en berne. Finalement, je suis tombé sur quelqu'un de lucide, sur lui, sa carrière, son fonctionnement, ses convictions de champion. Il est capable d'analyser son parcours, jalonné de très hauts et de quelques bas. Mais il est déjà tourné vers 2020. Il a hâte et ça se sent. À très vite pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, eh ben prenez soin de vous.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.